en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce la Chenardière.
Eugène Labiche, un académicien amuseur public. Un cycle de 4 émissions présentées et proposées par Lucrèce la Chenardière pour Canal Académie. À la technique, Mathieu Delajarte. Cette première émission du cycle va nous permettre de faire connaissance avec Eugène Labiche, un homme qui fut élu à l'Académie française après avoir amusé le public parisien pendant plus de 40 années. Cette première émission est une petite présentation d'Eugène Labiche qui nous permettra de poser des jalons avant de laisser la parole aux spécialistes, chacun dans leur domaine. Henri Gidel, François Cavaignac et Bruno Bayen, que vous retrouverez, chères auditrices et chers auditeurs, dans les 3 volets suivants. Henri Gidel est donc l'invité du 2e volet. Il est spécialiste du vaudeville. Il est entre autres auteur d'un « Que sais-je » sur le sujet. L'invité du 3e volet est François Cavaignac, auteur de la thèse « Eugène Labiche ou la gaieté critique ». Il s'adonne pour nous à une analyse des différentes interprétations critiques de l'œuvre labichienne. Puis nous achèverons ce cycle dans les coulisses du théâtre en compagnie de Bruno Bayen, homme de l'art, metteur en scène et dramaturge audacieux. Il évoque pour nous la tempête que sa mise en scène du Chapeau de paille d'Italie en 1986 avait soulevée à la Comédie française. Et maintenant, venons-en à l'objet de ce premier volet. Allons à la rencontre d'Eugène Labiche, amuseur public et néanmoins académicien. Si l'on nous demande « Connaissez-vous Eugène Labiche ?», nous nous récrions « Oui, bien sûr, Eugène Labiche, un chapeau de paille d'Italie, l'affaire de la rue de l'Oursine, le voyage de Monsieur Perrichon, la cagnotte. » On pourrait nous rétorquer « C'est tout ?» Et sans doute, resterions-nous bouche bée. « Comment, c'est tout ? Y a-t-il autre chose ?» Voyons plutôt. Jacques Robichet, dans son édition du théâtre d'Eugène Labiche, dénombre 32 pièces en 3 actes, 11 en 2, 9 en 4, 4 pièces seulement en 5 actes, mais 108 pièces en un acte. Ce qui fait au total rien moins que 164 pièces, dont Un monsieur qui prend la mouche, Le misanthrope et l'auvergnat, Si jamais je te pince, Voyage autour de ma marmite, La dame au petit chien, Le papa du prix d'honneur, Les 37 sous de monsieur Montaudin, Célimard le bien-aimé, Le plus heureux des trois, Moi, Un mouton à l'entresol, etc. Il n'est que de lire les titres pour comprendre la teneur de ce théâtre-là. Pas de tragédie, pas de gravité, pas de ton sentencieux, de la légèreté, rien que de la légèreté. Oui, c'est cela. Amuser le public, que le public rit de tout et surtout de lui-même, de ses petites manies, de ses us et coutumes, mais aussi de ses mesquineries, de ses peurs, de ses convictions, de ses valeurs. Amuser le public jusqu'à lui faire perdre le souffle. Les répliques brèves s'échangent à un rythme effréné. Les personnages, eux, semblent participer à une partie de cache-cache grâce au jeu des entrées et des sorties incessantes. C'est cela qui caractérise le théâtre de Labiche. D'ailleurs, lui-même concevait-il de vivre autrement qu'en homme actif, entreprenant ? Il est vrai que ses parents devaient être des gens énergiques. Eugène est né dans l'épicerie parisienne parentale, enfin, je veux dire, dans l'appartement attenant à l'épicerie. C'était un commerce lucratif, mais sans doute insuffisant pour Marie-Louise et Jacques-Philippe Labiche, qui possédaient de toute évidence un sens aigu des affaires. Jacques-Philippe était fils et petit-fils de notaire. Ceci explique peut-être cela. Le couple donc acquiert en 1815. Année remarquable, notez-le bien. Souvenez-vous, 1815, Waterloo, naissance d'Eugène Labiche. Donc, en cette année décidément mémorable, les tout nouveaux parents d'Eugène acquièrent une propriété comportant plusieurs bâtiments situés à Rueil, près de Paris. Là, M. et Mme Labiche fondent une usine de fabrication de sirop de glucose, une affaire qui leur rapportera une très solide fortune. C'est donc à Rueil, dans le confort d'une éducation bourgeoise et dans les vapeurs de sucre, que Eugène grandira. À l'âge de 11 ans, cependant, on le place en pension à Paris, près du lycée Bourbon, l'actuel lycée Condorcet, où il est élève. Au mois de mai 1833, il obtient son baccalauréat quelques semaines seulement après la mort de sa mère. En janvier 1834, Eugène a 19 ans. Il quitte Paris pour un voyage de 6 mois en Italie, une étape obligée dans le parcours éducatif des enfants de la bourgeoisie dorée de l'époque. Ce périple est en fait un voyage très organisé. Pas question de laisser sa progéniture partir à l'aventure. C'est donc M. Labiche, père, Jacques-Philippe, qui organise lui-même l'itinéraire, le calendrier, les étapes, les lieux de séjour, et ce n'est pas tout. Jacques-Philippe Labiche choisit pour son fils 3 compagnons de voyage triés sur le volet, dont un plus âgé, afin qu'il veille sur les 3 plus jeunes. Parmi ces derniers, Alphonse Levaux. Outre le dépaysement que lui procure la découverte de nouveaux horizons, dépaysement salutaire après la mort de sa mère, ce voyage offrira à Eugène 2 bienfaits. Premièrement, la naissance d'une amitié précieuse entre Alphonse Levaux et lui, précieuse parce qu'elle durera toute leur vie. Et deuxièmement, ce voyage donnera l'occasion à Eugène de commencer à exercer sa plume dans des carnets de voyage. Dans ces carnets, à la date du 9 mai 1834, on note cette allusion émouvante. Il y a 1 an, à pareille heure, j'avais encore une mère. C'était le dernier soleil qui devait éclairer sa vie et le premier qui devait éclairer ma douleur.
La brise est
Eugène Labiche rentre à Paris et emménage dans une maison héritée de sa mère, un immeuble situé rue du Mail, près des grands boulevards. Il s'inscrit en droit car son père le lui demande. Monsieur Labiche rêvait peut-être qu'Eugène renoue avec la tradition notariale familiale qu'il avait lui-même rompue. Mais la matière juridique ne semble pas exalter le jeune homme, puisqu'il lui faudra 6 longues années pour obtenir sa licence. Il faut dire, à la décharge d'Eugène, qu'il lui est difficile de fréquenter régulièrement l'école de droit. Ce jeune homme de 21 ans a un emploi du temps très très chargé. D'abord, il suit avidement la vie des théâtres et, au passage, celle de quelques comédiennes. Ensuite, il court les rédactions pour placer, ici et là, ses feuillets critiques. Il collabore en particulier à la Revue du théâtre. On peut y lire, à la date du 20 décembre 1837, un article à propos d'un vaudeville en un acte de M. Marcien, représenté au théâtre du Gymnase. Le bonheur dans la retraite. Je crois qu'il est honnête et consciencieux de commencer par prier le lecteur de ne pas lire ce feuilleton. La pièce ayant été sifflée au beau milieu d'une façon étourdissante, il nous a été impossible de suivre l'action dans ses développements. Nous allons toujours raconter le petit morceau qu'il nous a été permis d'entendre. Dans une maison de campagne vivent 3 personnes, Monsieur et Madame Derbin, plus un capitaine de dragons appelé Marigny. Ce capitaine est ami de Derbin. C'est vous dire qu'il fait la cour à sa femme. Au théâtre, l'ami n'a été inventé que pour cela. C'est un meuble à l'usage des épouses. Marigny joue donc son rôle d'ami, comme il convient, et Derbin son rôle de mari avec une bonne foi et une confiance traditionnelles dans la corporation. Derbin s'occupe de politique locale. Il intrigue avec le receveur pour faire destituer le sous-préfet de son département. Il néglige sa femme. Madame Derbin, qui est brune, couleur immuablement consacrée à l'adultère, s'accompagne mal des froideurs de son mari et passe son temps à aimer sournoisement le capitaine Marigny. Celui-ci s'en aperçoit et fait sa déclaration à bout portant, au mépris des lois de l'amitié, comme un dragon pur sang qu'il est. La séduction est en bon chemin quand le capitaine se ravise d'une façon invraisemblable. Sous prétexte qu'il est ami de Derbin, il ne veut plus lui prendre sa femme. On n'a jamais vu cela. Alors ce capitaine, si attentif, si poli, si tendre, change tout à coup de physionomie. Il devient brutal, soldat et grossier dans ses propos. Son intention est bonne. Il veut ruiner l'amour qu'on a pour lui. Mais ce n'est pas un motif suffisant pour débiter à pleine bouche des crudités de caserne. Les censeurs qui ont permis ce vaudeville ne peuvent alléguer d'autres excuses que le sommeil. Avec la meilleure volonté du monde, il nous est impossible de continuer l'analyse de cette pièce. Les sifflets ont couvert les paroles et les sifflets n'ont pas d'orthographe. Ce contretemps est fâcheux pour l'acteur Tisserand. Il a bien joué, malgré la tempête. Eugène Labiche. Mais l'activité de cet Eugène Labiche ne s'arrête pas là. Dans la même période, il travaille à « La clé des champs », premier et dernier roman signé Labiche sur la relation pathétique entre une mère, veuve, et son fils. En voici un court extrait. Il était 9 heures. Sitôt après dîner, Madame Bêche s'était emparée d'Émile pour lui faire tenir son fil à dévider. Il n'y a pas de plus grande corvée que d'être ainsi constituée en dévidoir filial. Cette fonction ne manque pas d'une certaine poésie vis-à-vis d'une femme dont on veut respirer l'haleine, parce que alors on peut jaser doucement de petites choses amoureuses, provoquer de charmantes bouderies en mêlant le fil, se faire appeler taquin ou bien distrait, dernière accusation qui appelle toujours un soupir. Ces drôleries sentimentales peuvent bien retenir l'honnête jeune homme qui possède une heure de loisir. Mais quand c'est l'écheveau maternel que l'on tient, le même charme n'existe plus. C'est toujours une leçon de morale qu'il faut endurer. Les mères possèdent si rarement leurs fils en parfaite disposition d'écouter que c'est un coup de fortune pour elles de les tenir ainsi liés au tête-à-tête. Ces pauvres enfants ont les doigts pris au piège de cet interminable écheveau qui se dévide en longues phrases honnêtes. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Il faut rester quoi sur sa chaise et souffrir respectueusement le réquisitoire maternel car, ainsi qu'un coupable, on porte les menottes. Un ami d'Eugène, Marc Michel, lui présente son éditeur, Gabriel Roux. Il publie le roman en 1839 avant de faire faillite, ce qui fait dire à la biche « j'y suis peut-être pour quelque chose ». Il rachète ce qui reste de l'édition, c'est-à-dire presque tous les exemplaires. C'est pourquoi, ajoute-t-il, l'ouvrage est très rare. De ce jour, il abandonne le roman et le pathétique. Il ne s'attachera plus qu'au vaudeville. D'ailleurs, au moment où son roman paraît, la biche est déjà accaparée par le théâtre. Emporté par son esprit d'entreprise, il fonde une société dramatique, avec Marc Michel, justement, et Auguste Lefranc, qui, eux, ont déjà écrit quelques pièces. Le jeune trio produit un rythme effréné des pièces avec couplets chantés. La difficulté était de se faire jouer, et c'est ici que s'exerce l'intérêt de cette curieuse entreprise, comme l'écrira la biche, quelques années plus tard à son ami Nadar. On peut se moquer de cette association de trois inconnus qui fondent commercialement une usine dramatique, mais dans mon opinion, elle eut un côté utile. Cette réunion de trois forces, de trois intelligences, nous ouvrit presque tout de suite les portes des théâtres qu'il faut presque toujours enfoncer. Précisons qu'un des membres de cette société, Auguste Lefranc, n'est rien moins que le cousin d'Eugène Scribe, alors la gloire du vaudeville. On peut donc supposer que Lefranc était déjà introduit dans le milieu et que cela a rendu quelques services à la société dramatique fondée par les trois jeunes gens. L'un des plus prestigieux des théâtres de vaudeville est alors le Palais Royal. Son directeur, Charles Dormeuil, qui fait autorité, accepte le manuscrit de Monsieur Coëlin ou l'homme infiniment poli, signé des trois associés. La pièce est programmée en juillet 1838. Le mois de juillet n'est pas une bonne date de programmation, mais c'est un bon début. Au mois d'août, une autre pièce, L'avocat Loubet, de Marc Michel, Auguste Lefranc et Eugène Labiche, est présentée au Théâtre du Panthéon. En 1839, c'est leur pièce, La peine du talion, qui est jouée au Théâtre du Luxembourg. Puis les pièces se succèdent dans différents théâtres, elles sont signées d'André, pseudonyme choisi par le fameux trio.
Thank you.
La carrière d'Eugène Labiche semble lancée, mais voici qu'il s'avise de tomber amoureux. Certes, ce n'est pas la première fois. On lui a connu, par exemple, une liaison avec une certaine Louisa, comédienne de la troupe du théâtre de la Porte Saint-Martin. Je cite maintenant Emmanuel Eman, qui a signé une biographie de Labiche pour l'éditeur Olivier Orban en 1988. Amoureux, Eugène cède à tous les caprices de Louisa. Il entame son capital pour l'insatiable jeune fille. Des amis s'inquiètent, car Louisa se moque ouvertement de l'amour éperdu d'Eugène. Tout le monde sait, sauf lui, qu'elle accorde volontiers ses faveurs à des amants de rencontre qu'elle exhibe dans des dîners en ville, tout en jurant passion et fidélité à son protecteur officiel. Eugène, cependant, devient soupçonneux. Il s'adresse au bureau des renseignements, officine de police privée de François Vidocq. Pendant un mois, la belle Louisa sera discrètement suivie. Tous ses faits et gestes seront notés et transmis à Labiche. Un jour que Louisa demandait à son riche amant de l'argent, il lui répond « Je n'ai pas d'argent, mais demain, je t'enverrai des billets. » Et le lendemain, en effet, il envoie à Louisa les billets relatant ses autres liaisons. Le procédé, disons-le, n'est pas très joli, mais il n'aura plus besoin d'en user. Il a rencontré Marie-Adélaïde. Avec elle, c'est sérieux. Marie-Adélaïde est la fille d'un riche entrepreneur, propriétaire d'une usine et d'un château. C'est du solide. Eugène a maintenant 27 ans, il veut se marier. Mais Monsieur Hubert, le père de la jeune fille, met une condition à ce mariage. Eugène doit cesser d'écrire. Épris de la belle Adélaïde, dite Adèle, Eugène accepte. Il n'écrira plus, c'est promis. Toutefois, deux mois avant le mariage, on remarque que son nom traîne encore à l'affiche du Palais Royal pour les représentations des Circonstances atténuantes, une comédie vaudeville en un acte signée Labiche, Lefranc et Méléville. Le 25 avril 1842, le mariage est célébré en grande pompe. Puis le couple part, comme il se doit, en voyage de noces, il se promène à Nice, en Suisse, puis il rentre à Paris. Mais que faire quand on est jeune, riche rentier, interdit de plumes? Eh bien, on voyage. Labiche repart avec sa femme pour un voyage de plusieurs mois, cette fois, en Italie.
Deci de là. De la voir si joyeuse, je me sens triste malgré moi.
Ah, que c'est amusant, banane, mais capricieuse entre nous.
Bien moins encore entendez-vous que la coquette qui me donne.
De-ci
de là,
caca,
pachotine,
patrotine, va petit âne. De-ci de là, caca, le picote de récompense-moi.
De-ci de là, caca, pachotine, patrotine, va petit âne.
De-ci de là, caca, le picote de récompense-moi.
Mais en cueillant des fleurs dans l'herbe, elle a cueilli mon cœur, je crois.
Dans l'eau que l'on mette bien vite, Marguerite, c'est coquelicot.
Combien je voudrais à huis clos interroger la Marguerite.
De-ci
de là, caca, va chemine, va trottine, va petit âne. De-ci de là, caca, le picotin de récompense-moi.
De-ci
de là,
caca, caca, va chobino, va trottino, va petitone, va de sin tutta caca, le picotatore che forza!
Pendant ce temps, à Paris, les pièces de La Biche et Lefranc sont à l'affiche du théâtre du Palais Royal. Charles Dormeuil, le directeur, était un homme avisé. Il avait rapidement compris qu'il tenait avec Eugène La Biche, un auteur de vaudeville talentueux et promis à un grand avenir. Il ne se trompait pas. En effet, de retour à Paris, enfermé dans son appartement du 56 rue du Faubourg Montmartre, à quelques pas du bruissement des théâtres des grands boulevards, Eugène tourne comme un fauve en cage. Il a promis à Beau-Papa de ne plus écrire, il n'écrit plus. Adèle, sa jeune épouse, assiste à ce désastre. Un jour, n'y tenant plus, elle tente une plume à Eugène. « Va te battre !» lui ordonne-t-elle. C'est ainsi qu'ont commencé pour Eugène La Biche 35 années de labeur au service du rire. Vaudevilliste gratifié d'immenses succès, il sera joué dans tous les grands théâtres parisiens, y compris à la Comédie-Française. Et, à 65 ans, il est élu à l'Académie-Française. L'élection de cet amuseur public ne se fait pas sans remous. Il a de solides adversaires. On lui reproche de n'avoir écrit seul que 7 pièces sur les 164 qu'il a signées. Ce qui est vrai. On lui dénombre plus d'une quarantaine de collaborateurs. On se gausse, Brunetière en colère écrit dans la Revue des Deux Mondes du 15 septembre 1879, alors que La Biche se présente à l'Académie, on ne fait pas asseoir une raison sociale dans un fauteuil académique. L'expression a du panache, mais en fait, c'est un mauvais procès, car cette pratique d'écriture collective était courante au XIXe siècle. Bien sûr, il y a toujours un auteur plus inventif, le cerveau, ou un dominateur, diront les mauvaises langues, plus prompt à se servir du talent des autres. Était-ce le cas d'Eugène La Biche ? Allez savoir. Il est vrai qu'à l'âge de 37 ans, en 1853, ses droits d'auteur lui permettent d'acquérir un domaine en Sologne avec manoir et terre et 500 hectares tout de même. Il est probable que l'auteur Eugène La Biche n'était pas exempt d'une certaine habileté commerciale. Avait-il entendu son père énoncer ce précepte discutable qu'il mit dans la bouche d'un de ses personnages « Les affaires sont les affaires ». Henri Beck, 10 ans après la mort de La Biche, écrivait qu'on avait fait de lui un bon homme alors que personne ne l'était moins qu'Eugène La Biche. Cependant, sous la coupole, le 25 novembre 1880, il lui reste 8 années à vivre, dans son discours de réception à l'Académie, après les remerciements d'usage, La Biche déclare en hommage à ses collaborateurs « La muse qui nous inspirait, mes amis et moi, était une bien petite muse. Elle s'appelait simplement la bonne humeur. Nous avons ri, nous avons fait rire. J'espère qu'il nous sera beaucoup pardonné. » C'est sur ce trait d'humour que nous achevons cette première émission. Je vous invite à rester en compagnie d'Eugène La Biche en écoutant les 3 autres volets du cycle. Eugène La Biche, un académicien amuseur public, proposé et présenté par Lucrèce Lachenardière. Cette émission a été réalisée par Mathieu Delajarte.